Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un grand marcheur. Yannick Proulx est de Mont-Blanc, le nouveau nom de Saint-Faustin-Lac-Carré, et s'apprête à réaliser un exploit tout à fait hors du commun. Non seulement veut-il traverser le Canada à pied, mais il prévoit le faire sur toute la longueur du sentier canadien. C'est un trajet d'au bas mot 16 000 km et qui peut atteindre jusqu'à 22 000 km selon le parcours choisi. D'ailleurs, une petite coquille s'est glissée dans l'entrevue réalisée avec Yannick lors de son passage à Radio-VM récemment. J'indique au début que 16 000 km représentent l'équivalent de plus de la moitié de la circonférence de la planète à l'équateur. J'aurais dû dire 22 000 km. Quoi qu'il en soit, c'est toute une aventure. Vous vous demandez sûrement ce qui motive Yannick à entreprendre cette longue marche qui devrait durer 2 ans. Je vous donne un indice. La fameuse pyramide de Maslow. Pour la suite, installez-vous confortablement, mettez votre imagination en marche et bon voyage. Alors bonjour Yannick et merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous en studio pour marcher vers le bien-être.
Hey, merci beaucoup M. Chagnon de l'invitation. C'est un grand honneur d'être avec vous et de partager l'expérience que je vais vivre durant les 2 prochaines années dans... Un mois, oui.
On part bientôt. Alors, ben justement, vous devez être pas mal excité à l'approche de votre grand départ.
Oui, vraiment excité. C'est l'accomplissement, le début d'un accomplissement, parce que c'était là, une organisation assez ardue de prendre en considération tout l'entraînement physique, l'entraînement mental. Oui. Les équipements, m'organiser pour le travail aussi, ramasser les fonds. Donc, c'est beaucoup d'étapes pour être capable de réaliser un grand voyage de cette ampleur-là.
Effectivement. Yannick, 16 000 ou quelques kilomètres, c'est plus de la moitié ou presque de la circonférence de la planète.
Oh, j'avais pas vu ça comme ça.
C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, je me dis, à part le grand marcheur québécois Jean Béliveau, là, qui a marché pendant 11 ans autour du monde, je ne connais personne qui ait réalisé un si long parcours que celui que vous projetez. Alors, décrivez-nous votre projet. C'est quoi votre itinéraire?
Donc, l'itinéraire que je vais prendre, je vais emprunter le sentier transcanadien, qui est le plus long sentier linéaire au monde.
Au monde?
Oui, au monde. Ensuite, là, en deuxième position, c'est la Pacific Crest Trail aux États-Unis.
Ah oui, oui. Donc avec Côte-Ouest.
Côte-Ouest, exact. Donc, il lui fait 4300, on va arrondir ça à 4300 kilomètres. Donc, le sentier transcanadien relie plusieurs tronçons. Exemple, le petit train du Nord qui fait 230 kilomètres, en commençant par Terre-Neuve, qui est un ancien chemin de fer. Donc, il y a beaucoup de anciens chemins de fer qui ont été reconditionnés pour devenir des sentiers multifonctions. Donc, on peut pratiquer vélo, marche, raquette, ce qu'ils font durant l'hiver.
Alors, Yannick, on précise un tout petit peu. Vous partez de Terre-Neuve et vous allez jusqu'à Victoria.
Colombie-Britannique, oui. Un chemin qui est de 16 000 km. Et si je décide, avec le temps, de prendre la route vers le nord pour me rendre à l'océan Arctique, c'est un chemin qui se rajoute de 6 000 km, qui va totaliser 22 000 km.
Ah, oh là là!
Oui, donc ça, on parle d'un voyage environ... Les gens avec qui j'ai parlé, qui l'ont déjà fait, l'ont fait en 5 ans, 6 ans. Mais en prenant son temps.
Et vous, vous projetez en 2 ans.
Oui, je vais le faire environ en 2 ans, le 16 000 km.
Et pourquoi avoir choisi le sentier?
Le sentier était déjà tracé. Mon objectif, quand j'ai décidé de traverser le Canada, en fait, je voulais déjà créer mon propre itinéraire, Mais quand je suis tombé, j'ai fait mes recherches, j'ai découvert le sentier transcanadien. Pourtant, le sentier transcanadien passe dans ma cour parce que je demeure dans les Laurentides. Et je suis aux abords du sentier transcanadien, qui est aussi le petit train du Nord. Donc, le petit train du Nord fait partie du tronçon du sentier.
Donc, très pratique.
Donc, j'ai pu m'entraîner... ce petit train du Nord, courant de l'été, au courant de l'année, de mes préparatifs.
Ce qui nous amène à la genèse du projet. D'où vous est venue l'idée de traverser le Canada?
Oh! Est-ce que l'émission dure 3 heures? On va faire ça bref. On va faire ça simple. Il y a environ 4 ans, j'ai lu un livre, ça s'appelle « Le petit guide de l'Ikigai ». Est-ce que vous connaissez?
Connais bien.
Expliquer un peu l'ikigai, c'est une philosophie japonaise. C'est à cet endroit-là au Japon qu'on rencontre le plus de centenaires. Parce que leur objectif, c'est de faire tout ce que les Japonais font, ça doit leur apporter du bonheur.
C'est dans la région d'Osaka.
Osaka, merci. Voilà. Oui, c'est bien ça.
Où il y a le plus de centenaires au monde.
Exact. Puis, dans le livre, dans le guide, il y avait une question. Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Et j'avais écrit « Je traverserais le Canada à pied ». Et j'ai rempli le livre, j'ai mis ça de côté, j'ai répondu aux questions dans un calepin à part du livre. Et là est arrivée la pandémie. Puis là, moi, étant donné que je suis dans le domaine événementiel, j'avais plus de contrat, j'avais comme plus rien. Et au début de la pandémie, j'avais tout vendu. J'avais vendu mon condo. Je demeurais à Tremblant. On avait un chalet là, donc je demeurais là. J'avais vendu mon condo. J'avais tout vendu, mes biens matériels reliés à mon entreprise. Donc, je me retrouvais avec plus de fardeau financier trop. Fin de parenthèse. Et là, on a eu le temps de faire du ménage. On a nettoyé les garde-robes de fond en comble. Puis, je suis tombé sur le calepin. J'avais rempli le petit guide de l'Ikigai. Je l'ouvre et ça tombe sur la page. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais maintenant?
Donc, en pleine pandémie, qu'est-ce que je ferais maintenant? Traverser le Canada.
Oui, puis là, je me suis rendu compte, j'ai peut-être pas 1 million dans mon compte de banque, mais je suis riche parce que j'ai la liberté de pouvoir choisir qu'est-ce que je veux faire maintenant.
Et pas de dette, probablement.
Pas de dette. C'est ça? Pas de dette, pas d'engagement de contrat, pas d'engagement de travail. On était dans le néant, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on s'en irait avec tout ça. Donc, je me suis rendu compte que cette pandémie-là, malgré que c'était difficile pour plusieurs, mais ça m'a fait permettre de voir que j'avais la liberté de prendre mes décisions et de changer la tournure de mon avenir puis de mes aspirations futures.
Donc, c'était l'occasion de réaliser votre rêve.
Exact. Donc, je me suis dit, go, je le fais. Donc, comme on dit, excusez l'anglicisme, j'ai fait mon commitment. Je me suis dit...
Mon engagement.
J'ai pris mon engagement envers moi-même. Puis, je me suis dit, le 15 avril 2023, je pars traverser le Canada.
Mais il reste que, bon, c'est un rêve là, de traverser le Canada, mais sous-jacent, il y a quand même un but, là. C'est quand même assez sérieux comme engagement, comme on disait. Alors, fondamentalement, quel était le but ou quel est le but, votre objectif en traversant le Canada sur le sentier?
C'est une excellente question parce que ce but-là est fait étant donné que j'avais réalisé que j'étais maintenant riche sans rien posséder, c'était de continuer à m'entraîner vers la libération du matériel et la libération des, pas des engagements, mais de prendre plus conscience de mes choix dans ma vie, que ce soit professionnel, mes choix personnels, des choix de qu'est-ce que je veux posséder dans ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas important, puis d'être de plus en plus en cohérence avec mes choix. Puis je crois que c'est vraiment important de revenir à la base, de reculer, de comprendre ses souffrances, pour être capable de ne pas être influencé par les aspects, puis les enjeux, puis les facteurs extérieurs.
Ce à quoi vous aviez goûté pendant la pandémie, justement, c'est ça?
Avant la pandémie, mais bien avant ça, parce que...
Bien avant?
Oui, parce que j'ai été influencé par avoir du matériel. Je me suis acheté un gros condo qui coûtait beaucoup trop cher en frais de condo, en frais de paiement. Donc, c'est beaucoup de fardeau sur les épaules à devoir travailler pour payer tous ses biens, puis payer, puis à un moment donné, on embarque dans le cercle vicieux de la vie, qu'on doit travailler encore plus pour pouvoir se payer telle affaire pour, au bout de la ligne, démontrer qu'on a une réussite matérielle, mais qu'au bout de la ligne, on n'est pas plus heureux, t'sais.
Et pendant la pandémie, vous avez goûté à cette grande simplicité, ce délestage.
Hein? Exactement.
C'est ce qui a été votre motivation vraiment pour partir sur le sentier.
Tout à fait.
Et vous reliez tout ça à la pyramide de Maslow.
Oui. Donc,
de quelle façon?
La façon, c'est que quand j'étais plus jeune, j'ai fait un cours en vente, un DEP. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la pyramide de Maslow parce qu'on avait un cours pour nous aider à comprendre où est-ce que le client se situe dans son cheminement. Et les psychologues utilisent beaucoup cette pyramide-là pour évaluer leurs clients, leurs patients, pour connaître leurs difficultés ou savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. Et en marketing, on utilise beaucoup pour influencer les gens vers des achats compulsifs. T'sais, comme par exemple, si on prend les annonces des publicités de voitures, par exemple.
Tout à fait, oui.
C'est exactement dans la pyramide de Maslow, t'sais, donc donner l'estime et la prestance de s'acheter une Mercedes, par exemple. T'sais, donc, si c'est une voiture, un camion utilitaire, ben, ils vont axer sur la famille, l'importance de la sécurité. Donc, ils vont jouer avec les différents paliers de la pyramide de Maslow pour atteindre les gens selon leur vulnérabilité. Mais ça joue directement sur notre ego, puis notre estime de soi. Mais là, avec le temps, la pyramide de Maslow, qui a été créée dans les années 40 par Abraham Maslow, qui est un psychologue américain, j'ai réinventé un peu cette pyramide-là. Donc, je l'ai appelée les Mass High Peaks. Donc, pour Maslow, je l'appelle les Mass High, comme les hautes pyramides, parce que je rajoute trois autres pyramides, qui est la pyramide des finances, la pyramide des autres humains, pour prendre l'importance de prendre de conscience que ce que les autres autour de nous vivent aussi, et l'environnement. Donc, de cette façon-là, en partant du soi, on peut être capable de prendre des meilleures décisions de nos besoins en considérant nos finances et en considérant les autres et l'environnement pour avoir un meilleur équilibre dans notre vie puis être en harmonie vers un monde meilleur.
C'est parce que la société, le contexte a changé énormément depuis les années 40.
Énormément, parce que depuis les années 50, on a développé la mondialisation. Donc maintenant, je prends juste l'exemple des vêtements. On était capable d'avoir des vêtements faits au Canada, faits ici, Montréal. Mais maintenant, la majorité des vêtements, c'est fait en Chine. Maintenant, on veut le faire ça au Bangladesh. Les conditions de travail de ces personnes-là qui fabriquent les vêtements ne sont pas nécessairement adéquates pour que ces personnes-là puissent, eux aussi, à leur tour, atteindre leur plein accomplissement de soi. Là.
Donc, vous avez la grande pyramide de Maslow et vous avez trois petites pyramides à côté.
Oui. Ben en fait, la pyramide de Maslow
qui
au centre,
quand même. C'est ça. Ah oui.
À gauche, on parle à gauche l'environnement, tu sais, ceux qui sont plus de gauche, c'est l'environnement, et de la droite, on est plus dans les finances. Et au centre, on revient au centre, qui est la même pyramide de Maslow du centre qu'on connaît, avec les autres humains. Donc, en partant du milieu, on se pose les questions. En allant du côté des finances, on revient en pensant aux autres et on va vers l'environnement. Et ça fait un signe infini de bonheur. Donc, je vous donnerai une photo avec un visuel. Ça va être plus facile à voir.
Très intéressant. Donc, vous intégrez tout ça dans un nouveau mode de vie. Si
un nouveau mode de vie. Puis, être capable de réfléchir et de pousser un peu plus loin nos réflexions sans être influencé par les aspects extérieurs.
Ouais. Et pour vous, ça représente quoi dans le quotidien?
C'est de retrouver notre équilibre et d'être en harmonie avec ce qui nous entoure et d'apprécier beaucoup plus ce qu'on a, parce qu'étant donné qu'avec cette théorie-là, philosophie-là, on vient à moins dépenser pour s'acheter du matériel, mais tout ce qu'on possède, on est heureux de l'avoir, puis tout ce qu'on a une utilité, puis ça ne se ramasse pas dans le placard après trois mois d'utilisation. Là, t'sais.
On vit selon nos besoins.
Exactement.
Voilà. Oui. Et vous avez une autre raison de partir en voyage, c'est d'apprendre l'anglais.
Oui.
C'est une bonne façon pendant deux ans.
Oui, ça, c'est des... En fait, j'ai mis C'est comme plein de rêves de jeunesse que j'ai tout mis ça ensemble. Puis je suis vraiment en cohérence. Genre, le mot cohérence, ça revient beaucoup dans l'entrevue, mais c'est important. Quand j'étais jeune, je voulais aller travailler dans l'Ouest pour apprendre mon anglais. Donc, mm-hmm. je vais pouvoir le faire. Puis en plus, maintenant, je travaille avec une compagnie audiovisuelle qui vont me permettre de pouvoir aller travailler durant mon voyage, d'aller travailler dans les hôtels avec la compagnie encore audiovisuelle qui sont établis dans plusieurs hôtels à travers le Canada. Donc, ils me donnent la chance d'aller travailler avec mes collègues de travail, apprendre l'anglais, faire un petit peu d'argent pour payer ce voyage-là. Mm-hmm. Puis... avoir un peu d'hospitalité de oui, maison chaude, oui, oui. parce que certains vont m'inviter chez eux.
C'est ça, parce que l'hiver peut être long.
Un peu, oui.
Alors, vous parlez d'événementiel. Pour préciser un tout petit peu, quel est votre travail?
Mais ça fait 22 ans que j'ai mon entreprise dans le domaine d'animation.
Animation,
oui,
de groupe,
j'anime
de
des
séminaire.
Événements corporatifs, j'anime des mariages. Les mariages, okay. c'est vraiment ma spécialité, mais j'avais un volet aussi audiovisuel. Donc, je fournis l'équipement pour... Les congrès, les séminaires et autres. Et là, étant donné que j'avais tout vendu mes équipements, je me suis greffé avec une grande compagnie internationale qui offre dans le même domaine des congrès et de fournitures audiovisuelles.
Et c'était pendant la pandémie, vous vous êtes délesté de votre équipement,
oui,
c'est
exactement.
Ça, de votre entreprise, et vous associez à cette autre
oui.
corporation.
Donc,
intéressant.
Je deviens employé maintenant. Donc, je suis un peu moins à mon compte.
La pandémie a eu tellement de conséquences partout dans le monde. On ne soupçonnait pas, mais voici un autre exemple,
oui.
justement. Je parlais de Jean Béliveau tout à l'heure, qui, lui, avait une cause pour parcourir la planète pendant 11 ans. Et c'était, en fait, un projet, un rêve pour lui de sensibiliser la planète à la décennie de l'enfance. En 2000. Donc, il s'est dit, je vais partir pendant 10 ans et je vais donner des conférences, je vais sensibiliser la planète au sort des jeunes. Est-ce que vous avez une cause en tête, en plus de vos objectifs personnels?
Bien, en fait, un peu dans le même sens que M. Béliveau, c'est de partager cette théorie-là, surtout aux jeunes. Parce qu'au début de la pandémie, avant la pandémie, je m'étais inscrit pour aller au cégep. Je voulais faire, j'étais vraiment motivé à faire une réorientation de carrière. Je m'étais inscrit au cégep à Saint-Jérôme dans un cours en éducation spécialisée pour justement travailler avec les jeunes, aider les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, aider les jeunes qui ont des troubles de comportement.
Ah oui. mmh.
Et j'ai quitté après une session. Mais c'était la plus belle session de cours que j'ai faite de ma vie. Et j'avais quand même mes billets, puis mes messages, mon message que j'avais toujours en tête. Et je me suis dit, comment que je pourrais être capable de partager ça à des jeunes pour être capable de ne pas être influencé? Parce que toutes nos souffrances viennent beaucoup du désir. Hein? On veut avoir plus, puis dans nos modes de surconsommation et de performance, aujourd'hui, c'est difficile de se défaire de toutes ces croyances-là que mm-hmm. pour réussir dans la vie, il faut avoir la maison, le chalet, le bateau et la Mercedes en cours. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Puis les gens se mettent beaucoup de pression. Après ça, les gens ont de la difficulté à atteindre leurs objectifs, sont déçus, manquent. Donc là, on crée des TDAH chez l'adulte. Donc, c'est toutes des fausses croyances que les gens se mettent à cause de leur pression, la pression sociale. Mais qui suis-je, moi, Yannick Brou, pour être capable de passer un message puis de venir changer toute cette théorie-là alentour? Donc, j'ai décidé de partir par moi-même, aller marcher, puis si je suis capable d'avoir pas une influence, mais d'inspirer les gens à revenir à la base, je vais avoir réussi mon travail de TES, technicien en éducation spécialisée.
Ah, merci. Si je comprends bien, vous voulez, c'est une espèce de défi à vous-même, là. Vous voulez tester votre théorie ou votre message. Et si je comprends bien aussi, vous avez une vision et vous voulez la tester, comme on dit, face à une réalité de tous les jours qui va être complètement différente de ce que vous vivez maintenant.
Tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Parce que c'est pas évident, parce que je pourrais pas dire ça comme ça, mais ce serait tout le temps être en dualité. Donc, entre la noirceur et la lumière. On va prendre ça comme ça. Donc, moi, j'apporte une lumière, mais il va toujours avoir la noirceur qui va essayer de venir m'agglomérer pour être capable de me tasser. Mais on pourrait dire aussi c'est la même chose avec notre ego. Donc, on a notre bonne conscience, notre ego qui va vouloir, OK, oui, à Jacquelette, à ton auto, t'en as vraiment besoin. Puis la bonne conscience, mais non, je peux marcher. J'ai pas besoin de l'auto, je peux aller marcher. Mais c'est difficile parce qu'avoir, mettons, une voiture, ben c'est bien vu, la société, tu sais, c'est une belle réussite. Mais on est tout le temps en perpétuel... débalancement dans nos décisions, puis de vouloir partir marcher 16 000 km, c'est un entraînement envers moi-même aussi de faire face à tous ces enjeux-là, puis c'est sûr que je vais changer quand je vais revenir, puis j'espère que je vais avoir réussi à quelque part.
Bien, sûrement que ça va vous transformer et on verra plus tard, on en parlera justement un peu plus tard. Oui. Donc, pour résumer, c'est un peu un test, là. Vous partez pendant 2 ans, vous avez cette vision et vous voulez vous convaincre, vous voulez apprivoiser davantage, approfondir pour pouvoir par la suite sensibiliser, mm-hmm. C'est ça?
Mais tiens, on pourrait donner juste un exemple, je suis un amateur de café. Donc, les petits cafés de quartier. Donc, ça va être en chemin. OK, est-ce que je vais aller dépenser 5 $ dans un café où j'ai de l'eau? Donc, l'eau va être beaucoup plus bénéfique pour marcher, pour mon système corporel que d'aller boire un café. Donc, le café, je vais le prendre plus en petite récompense une fois de temps en temps que d'aller en boire un café à 5 $ chaque jour parce que j'aurais pas les moyens de me payer un café à 5 $.
Mais aussi, ce qui est important, vous n'auriez peut-être pas l'occasion parce qu'il y a des bouts de sentier qui sont assez isolés de la civilisation, de la société. Alors, le café peut vous manquer sous... différentes formes.
Oui. Mais le sentier transcanadien est c'est un sentier qui est rural, urbain et sauvage. Donc, on passe par toutes les catégories d'environnement là, qu'on retrouve à travers le Canada avec plus de 200 communautés que je vais rencontrer aussi. Donc, les gens vont pouvoir m'accueillir aussi chez eux, puis je vais pouvoir boire un café à leur compagnie.
Et tout ça est déjà prévu, je le sens. Yannick, on prend une courte pause musicale et on revient avec un élément tellement important, la préparation.
Oh oui, à tout de suite.
Nous sommes de retour avec Yannick Prou. Nous parlons de cette expédition, ce périple de des milliers de kilomètres sur le sentier transcanadien. Encore faut-il se préparer, Yannick? Et j'ai compris qu'il y avait deux sortes de catégories de préparation, la préparation physique et la préparation mentale. Parlons d'abord de la préparation physique. Vous avez 41 ans,
oui.
Vous me semblez en très bonne forme. Comment peut-on se préparer davantage pour une marche de longue durée de 2 ans?
J'ai pas fait de Zumba. j'ai fait beaucoup de yoga.
Ah oui?
Oui, pour travailler la flexibilité, enlever les tensions, pratiquer, parce qu'après un effort physique soutenu, on se crée des petits bobos, donc c'est important d'étirer les muscles, donc une bonne flexibilité.
Régulièrement, quotidiennement?
Je dirais pas quotidiennement, mais régulièrement.
Assez souvent.
Pour pouvoir m'aider à enlever les petits nœuds aussi là, dans les muscles. J'ai fait un peu CrossFit dernièrement.
C'est quoi le CrossFit?
C'est un entraînement multifonctionnel, donc c'est vraiment amical, hein. On s'entraîne en groupe et tout le monde fait la même chose avec des poids. Puis chaque jour, on a un entraînement différent.
Donc, différentes parties du corps, différents muscles.
Mais on travaille pas. C'est des entraînements, en fait, le programme d'entraînement est différent chaque jour, mais l'objectif, c'est de travailler la posture et le tonus musculaire.
Ah, oui.
Donc, en apportant un sac à dos d'environ une trentaine, quarantaine de livres, avoir la posture, une bonne posture, les épaules bien placées vers l'arrière, qui ne penchent pas par en avant. C'est important pour garder un dos en santé, puis surtout être capable de travailler dans les jambes, pour être capable de forcer en marchant de travailler dans les jambes, un peu dans les bras avec les bâtons, mais d'avoir la bonne posture, pas avoir le cou penché par en avant, avoir le corps bien droit, avec une petite inclinaison en avant pour se propulser, pour avancer. Mais c'était fait partie de mon entraînement. Peu de musculation à la maison et surtout beaucoup de marche. Donc, je me suis entraîné sur des randonnées de longue durée.
De combien?
C'était entre 110, 115 jusqu'à 300 km que j'ai fait dans les deux dernières années. Ouais. J'ai fait environ 5-6 voyages de cette ampleur-là.
Et vous marchez depuis longtemps quand même?
Pas tant que ça, mais je me suis rendu compte en discutant hier justement à Montréal avec des amis que ça a commencé avec ma mère. Ma mère n'avait pas de voiture. J'ai toujours été habitué de marcher alentour de Montréal. Je me rappelle, ma mère, on débarquait au métro Atwater, puis on marchait jusqu'à Berry, puis on revenait à la maison à la Chine.
C'est une bonne marche.
C'est une bonne marche. Donc, oui. M'a fait découvrir la marche, on pourrait dire la marche urbaine.
Ben, c'est puis, ça, tout à fait, oui.
Donc, ça a sûrement commencé là. Donc, ma mère a eu une grande influence sur la marche, a apprécié la marche. Puis, à un moment donné, on perd peut-être le goût, mais j'ai toujours apprécié la marche en forêt, la randonnée pédestre. Donc.
Ça fait partie de vous, là?
Ah oui, ça fait partie de moi, intégralement. Oui.
Bon, alors, vous êtes en forme, vous m'apparaissez très en forme même. Petite question, est-ce que vous avez subi un examen médical pour être bien certain qu'il n'y a pas de petites surprises qui vont surgir à un moment donné? Là?
Je vais me faire masser à chaque mois. Okay. Je vois un chiro qui me... Parce que l'année passée, en avril, j'ai fait la gaffe comme un marathonnier qui allait courir un marathon. La première sortie après l'hiver, j'ai fait la gaffe de marcher 270 km, puis je me suis blessé au pied.
Oh.
Ouais, j'ai été de mai-juin, là, quasiment arrêté l'an passé. Oui. Ouais. Donc, je me suis blessé au-dessus du pied. Puis, un tendon qui s'est étiré sur au talus. Puis,
C'est douloureux, hein?
Oui. Puis, après ça, je suis allé voir... Jean Marchand, qui est un orthésiste à Tremblant, dans mon coin, puis il m'a fait des semelles. Donc, ça l'a vraiment bien aidé pour m'aligner aussi avec ma posture, avec le travail de la massothérapeute, la chiro. Puis aussi, j'ai un médecin là, qui me suit, que si en cas de pépin, elle peut me voir ou me conseiller, mais c'était pas nécessaire, étant donné que... Je suis encore jeune et une bonne forme physique.
Excellent. Donc, je dirais que la forme physique, c'est relativement facile. Mm-hmm. Ça prend beaucoup de travail, évidemment, mais c'est relativement facile pour ce genre de projet.
20 % du travail.
20 %
Oui.
J'imagine que la préparation mentale est tellement importante.
80 %
80 % c'est ça. C'est le 80-20, là. Hein?
Oui.
Comment vous faites? Comment vous avez fait pour vous préparer?
Au début, quand j'ai commencé à planifier tout ce voyage-là, je suis allé sur un groupe Facebook. C'est Survie en forêt.
C'est un bon début.
Hein? Oui. Les gars de bois, ils savent comment s'organiser avec les ours puis les loups. Donc, je vais aller leur poser les questions. Donc, je leur écris, je dis, je planifie de traverser le Canada à pied. Avez-vous des conseils? Puis, un monsieur, Claude, qui est un Algonquin Mohawk, qui demeure...
De quelle région?
Il demeure près de Ottawa, Valleyfield.
Valleyfield, oui.
Je ne le connais pas. Je le connais seulement via les réseaux sociaux. Puis, c'est un monsieur dans la soixantaine. Puis, un bon franc-parler. Puis, il me dit, « T'aurais beau avoir les meilleures bottines du monde, mais si tu n'as pas nettoyé toutes tes bébites que tu as dans ta tête, jamais tu vas réussir. »
Oh, et belle leçon. Hein?
Oui, très belle leçon. J'ai toujours gardé cette parole-là en tête. Puis j'ai tout fait pour être capable de justement nettoyer ma conscience pour la purifier le plus possible pour ne pas me retrouver en plein milieu d'une forêt avec des angoisses ou des crises de panique parce qu'on repense à notre passé. Hein. On vient souvent remémorer des histoires du passé, des choses qu'on a regretté de faire. Et quand on se retrouve tout seul avec soi-même, toutes ces pensées-là reviennent. Donc, c'est important de faire du bon ménage. Donc, ce que j'ai fait pour m'aider, j'étais à la Vipassana.
Oh, vous expliquez?
Vipassana, c'est à Montebello. Il y a environ 250 centres dans le monde, qui est une philosophie bouddhiste. C'est pas religieux, c'est vraiment athée, parce qu'il n'y a pas de rythme. C'est le même procédé que le bouddhiste, les mêmes livres. Mais il n'y a pas de rythme comme on a dans le bouddhisme. Mm-hmm. C'est une retraite en silence d'une dizaine de jours, de 10 jours. Donc, on commence le matin.
Mm-hmm,
le gong sonne à 4 heures.
4 heures le matin.
4 heures le
matin.
C'est
dur.
Un petit peu.
Au début.
Ensuite, on va méditer à partir de 4h30 le matin. Et la journée se termine autour de 21h30. À 10 heures le soir, 22 heures, les lumières se ferment.
Et vous méditez toute la journée?
On médite environ 14 heures par
14
jour.
14 heures de méditation.
14 heures.
Et ça quand on dit méditation, là, il y a toutes sortes de définitions et de pratiques. Vous faisiez quoi?
L'objectif de Vipassana, c'est de... Ils font comprendre aux gens que tout le monde souffre. Pour deux raisons. Soit qu'on pense au futur ou au passé. Et de ces pensées-là, du futur ou du passé, c'est soit dans le désir... ou la colère, la rancune et autres. Mais dans le désir, ça a l'air bien beau de penser au désir, mais comme je le disais tantôt, les gens qui désirent, désirent toujours plus. Et ils viennent toujours être insatisfaits dans leur désir parce qu'on n'est pas capable de tout posséder, on n'est pas capable de tout avoir. Donc, les gens sont déçus de ne pas avoir atteint tel objectif. Mais l'objectif, c'est d'être conscient de nos sensations dans notre corps et d'être conscient de ce qui se passe dans notre environnement. Pour être capable d'être dans le moment présent. Puis quand on est capable d'être dans le moment présent, on est capable d'accepter mieux qu'est-ce qui arrive sans être dans le désir ou dans la colère.
Donc, à l'écoute du corps, à l'écoute de l'environnement, du contexte.
Oui, exact. Ça?
Mais j'en reviens à l'exercice comme tel. Vous êtes assis, vous êtes couché, vous êtes 14 heures, c'est long quand même.
On est assis en mode lotus où il y a des coussins qui sont disponibles pour se positionner comme il faut.
Oui.
Le dos droit, la tête haute et on respire. Donc, ça commence avec une inspiration, expiration par le nez et on doit sentir l'inspiration qui rentre dans les narines. Donc, on doit sentir l'air qui rentre puis qui sort. Donc, on se concentre que là-dessus. Sans se dire de mantra, sans se dire de chiffres en comptant 1, 2, 3, 4. On ne pense absolument à rien. Puis quand il y a des pensées qui viennent, bien on les accueille, puis on les laisse aller, puis on se reconcentre, on revient à visualiser notre respiration, puis à ressentir les effets pour au bout de la ligne, au bout des 8e jour environ, et qu'on commence à se faire comme un scan corporel. Donc, on évalue, on part de la tête jusqu'aux pieds pour sentir toutes les sensations de notre énergie qui passe dans notre corps. Et ça, rendu là, c'est un petit peu plus facile que de se concentrer que sur le nez, mais c'est un grand travail à faire. C'est pour ça que plusieurs personnes disent « Ah, je pourrais y aller 3 jours. » Non, parce qu'il y a un processus d'être capable de se libérer de son mental.
Pour faire le vide, là.
Pour faire le vide, puis être capable de passer par toutes les étapes.
Mais si vous méditez, vous ne parlez pas. Parlez, ne pas parler plutôt pendant 10 jours. Ouch!
Oui.
C'est pas évident.
On peut parler avec notre guide, la personne qui est là, ou on peut parler aussi avec les bénévoles qui nous aident durant le séjour. Mais entre les participants, on ne peut pas se parler. Donc, on évite les regards. Donc, on appelle ça le noble silence pour se retrouver envers soi-même, puis d'être en union avec le soi.
Donc, vous avez confiance que tout ça vous a bien préparé, là?
Énormément, parce qu'il y a 5 ans, je l'avais fait, Vipassana. J'y étais allé et j'avais réussi 2,5 jours. Donc, j'avais resté 2,5 jours. Mais j'étais dans une étape de ma vie que j'avais beaucoup de responsabilités financières. J'avais mon entreprise. J'avais fait la gaffe de laisser des équipements à une cliente qui ne connaissait pas comment utiliser le matériel. Donc, je pensais, j'avais des ruminations de toutes sortes. Mais là, y retourner avec un objectif précis de traverser le Canada.
Oui.
L'expérience aussi de me retrouver seul en marchant en forêt, puis de marcher de ville en village, comme que je l'ai fait dans mon entraînement, ça m'a permis de me libérer et d'avoir une autre approche envers moi-même et d'avoir beaucoup plus de compassion puis de respect envers mes pensées, puis de ne pas me saboter. Quand j'avais une pensée un peu plus négative, c'est de, OK, ma pensée négative, elle arrive, mais je la laisse aller. Puis comme ça, je vais être capable, quand je vais être en forêt ou des moments plus difficiles, d'observer, oui, OK, je ne me sens pas bien, mais demain, ça va aller mieux.
Et ça vous sert dans la vie de tous les jours, j'imagine.
Ah, dans la vie de tous les jours.
Depuis, même si vous ne partiez pas en voyage, déjà, ça serait un bienfait.
Ah, je conseille à tout le monde de faire au moins cette retraite-là de 10 jours, au moins une fois dans leur vie. Là. C'est même, y a beaucoup, ils ont des approches aussi dans les écoles qui démontrent, qui aident les enfants à apprendre à méditer de cette façon-là.
Intéressant. Oui. Oui, oui.
Donc, plus on apprend jeune à méditer, plus on est capable de gérer nos émotions, puis de se libérer de nos souffrances.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques, méthodes pour la préparation physique et mentale?
J'ai fait...
Ça englobe tout, là. C'est pas mal ça. Là.
Mais en fait, aussi, j'ai été invité par Patrick Auger de la compagnie Kilomètre, que vous avez reçue la saison dernière, qui m'a invité à prendre une formation de marche afghane.
Oui.
Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi, qui se rapproche aussi un peu à l'approche Vipassana de respirer, être conscient de son souffle.
La synchronisation des pas et de la respiration.
Exact. Ouais. Donc ça, c'est un autre niveau de méditation. Donc la marche, c'est une grande méditation à ciel ouvert.
Alors depuis ça, vous marchez beaucoup, là?
Oui, toujours.
Seul ou avec d'autres? Je pose souvent la question. C'est intéressant quand même comme question.
Oui, ça dépend. Mon envie, puis comment que je me sens à ce moment-là, mais beaucoup, plus souvent seul qu'autrement. J'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup la randonnée, donc on partage des bons moments de marche et de randonnée. Là.
Mm-hmm. Alors, au niveau préparation, un dernier volet peut-être, et vous l'avez un tout petit peu évoqué, cette cliente qui avait de l'équipement, pas certain si elle peut s'en servir et tout. Alors, il faut être bien préparé au niveau social, au niveau finance, au niveau rapport avec la banque, avec l'hydro, avec les factures, avec tout ça. C'est quand même un casse-tête important, ça, non?
Je suis chanceux, parce que je ne suis pas tout seul. J'ai ma conjointe. J'ai ma conjointe qui va avoir, je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais elle va avoir mes mots de passe de tous mes comptes bancaires.
La confiance règne.
Là, on a une grande confiance mutuelle, un et l'autre. Donc, elle va pouvoir gérer à distance, payer mes comptes parce que, justement, tu sais, je veux me libérer le plus possible de toute responsabilité, qu'on pourrait dire comme ça, de financier, puis de pas nécessairement regarder à chaque mois mon état bancaire.
Oui.
C'est elle qui va me dire « OK, tu as mangé trop au restaurant. » Donc, réduis un peu tes dépenses de restaurant. Mais puis qu'il va me donner...
Où elle va couper.
Ah, j'en ai aucune idée.
Et ce qui m'amène à penser aussi, c'est tellement intéressant parce que vous partez pour 2 ans, mais ça pourrait être 3 mois ou 4 mois, qui est quand même une grande période. Les connaissances, les amis, la famille, il faut les avertir aussi, là. Oui. Il faut quasiment les convaincre.
C'était quand même assez facile, mais l'aspect sur la famille qui n'est pas évident, c'est que c'est ma mère. Ma mère, qui est âgée de 83 ans, elle est quand même en forme encore, mais sa santé n'est pas optimale. Donc, partant dans 2 ans, il peut arriver tellement de choses. Tous les jours, je vais penser à elle.
Ah, c'est gentil. Oui. Donc, vous êtes bien préparé à tous les points de vue.
Il faut. Oui.
Bon. Alors, on prend une autre courte pause et on tombe dans le pratico-pratique. On part de Terre-Neuve à pied et on voit ce que ça comprend comme organisation, mais aussi la vie au jour le jour. Nous sommes toujours en compagnie de Yannick Proulx qui quitte bientôt pour son grand périple, la traversée du Canada sur le sentier transcanadien. Yannick, le pratico-pratique justement, parlons d'hébergement. Comment vous allez faire? Vous avez votre tente et vous allez coucher sous un sapin ou un pin tous les soirs? Avec les petits animaux?
Mais je veux dire, cette étape-là a été excitante. C'était la partie la plus agréable à gérer parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Le facteur humain ressort énormément de cette étape-là. Sur ma page Facebook, j'ai fait un formulaire avec l'aide de Google. Gens peuvent se prononcer puis m'inviter chez eux. Donc, les gens qui demeurent le long du sentier transcanadien peuvent inscrire leur nom, information avec leur adresse Puis, il y a des choix. Genre, je veux venir marcher avec toi, je vais t'offrir un repas,
je t'offre
l'hospitalité. Donc, les gens peuvent sélectionner leur choix. Puis, quand je vais passer proche de leur demeure, je les appelle. Puis, on va passer un bon moment ensemble. Et le hasard, le beau hasard, tu sais, je pense beaucoup à Bruno Blanchet, qu'on connaît bien, qui, lui, a commencé une passion de la course à pied. Puis, lui, il a plusieurs personnes qui suivent sur sa page Facebook, contrairement à moi, qui n'y a pas beaucoup de monde. Mais lui, OK, je vais être au lac Saint-Jean. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accueillir? Fait que là, il y a à peu près 10 000 personnes qui répondent. Oui. Mais il est connu, donc ça l'aide. Mais dans mon cas, je ne suis pas connu.
Oui.
Mais le hasard, et je dois faire tellement confiance à la vie. Puis ça, on va reparler. J'aimerais s'en reparler tantôt de ma rencontre que j'ai faite d'une dame en Charlevoix. C'est que à partir de Saint-Siméon, en Charlevoix, je vais peut-être jusqu'à Ottawa, je vais peut-être faire 10 nuits à l'extérieur, au Québec. Parce que les gens m'ont invité, puis ça donnait comme ça par hasard. Toutes les gens qui m'invitent demeurent entre 30 et 40 kilomètres, un et l'autre. Il y a des gens en Estrie.
C'est un beau hasard.
C'est un très beau hasard. Puis en Estrie, il y a des gens qui m'invitent chez eux qui demeurent à 5 kilomètres. Donc, je vais pouvoir aller déjeuner chez quelqu'un, dîner chez un, puis souper chez l'autre. Donc, c'est tellement des belles rencontres. Puis les gens sont heureux de m'inviter chez eux, puis ils m'envoient des messages. C'est comme si ces personnes-là vont vivre mon voyage par rapport à mes péripéties que je vais avoir vécues à leur demeure, avec un bon repas.
Et grâce à votre page Facebook, peut-être allez-vous remplir, pour ainsi dire, ces 10 nuités à l'extérieur par des belles rencontres, encore une fois, les gens qui vont vous écrire. Non, si tu passes par ici, on va t'accueillir.
Non, ça ne pourra pas, parce que le sentier transcanadien passe par la traversée de Charlevoix. Donc, c'est dans le bois.
Tout
donc,
à fait.
Pas on de pas maison. Le choix. Donc, je vais dormir en nature où il y a des chalets,
oui.
Des chalets en bois rond. Donc, je vais pouvoir soit dormir en chalet si les gens veulent me permettre de rentrer à l'intérieur, parce que j'essaie d'être le plus économique possible, parce qu'il y a des coûts reliés
à
l'hébergement
tout à fait,
en chalet. Puis les coûts pour le camping sont beaucoup moindres. Et il y a le sentier des Caps aussi, Charlevoix encore, qui on passe en forêt. Donc, il faut que je passe le plus possible en sentier parce que je vais avoir une assurance vie en cas d'accident avec Rando Québec. Parce
tout
que plusieurs, puis je trouve important, plusieurs marcheurs qui vous écoutent, les gens, Rando Québec offre une assurance vie, une assurance sécurité pour les marcheurs, les randonneurs qui marchent sur des sentiers balisés partout au Canada. Donc, si je décide de prendre la route, puis c'est pas un chemin qui est balisé par le sentier transcanadien, et j'ai un accident, malheureusement, l'assurance ne me couvre pas. Donc, le plus possible, pour ma sécurité, je vais marcher sur les sentiers balisés.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit là, entre votre besoin ou votre nouvelle habitude de solitude et de rencontrer tellement de gens? Est-ce qu'il y a peut-être un conflit, ou je dirais pas un manque de cohérence, évidemment, on en a parlé au début de l'émission, mais... Il n'y a pas un petit quelque chose, là? Vous voulez être seul, la solitude, c'est bon pendant le trajet, mais vous allez rencontrer tellement de gens où ça se complète bien.
Ça se complète, hein, parce que je ne vais pas nécessairement rencontrer des gens tous les jours. Au Québec, un peu plus, mais du côté des autres provinces, ça va être, je vais avoir comme à Terre-Neuve, les zones sont beaucoup plus isolées. Tu sais, en Ontario, il y a des villages qui sont à 100 kilomètres, 150 kilomètres. Donc, je vais devoir être environ 4 jours d'autonomie pour être capable de répondre à tous mes besoins côté nourriture, eau, avant de rencontrer un village suivant, là. Je ne serai pas toujours avec des gens. Puis les gens aussi, comme je dis tout le temps, on a besoin des autres pour être capable d'avancer. Puis on a besoin de l'un et l'autre. Puis il y a quelque chose de bien, de réconfortant aussi de rencontrer un humain sur sa route.
Et oui. Au niveau de l'équipement, vous aviez parlé d'un sac à dos assez costaud quand même, là. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans?
Les éléments de base.
Ouais.
Oui.
Sac de couchage, tente.
La tente, il y en a même qui peuvent le faire avec une toile seulement,
oui.
même pas de tente. Moi, j'ai choisi les tentes parce que ma plus grande hantise, ça sera les mouches.
Ou les maringouins, ou les petites bébites.
Ben, les mouches rassemblent toutes les petites bébites qui piquent. Donc, je vais pouvoir être un petit peu plus en sécurité là, dans une tente avec moustiquaires.
Mm-hmm.
On retrouve la nourriture, le réchaud, les petites casseroles. C'était beaucoup de recherches. J'ai eu une bonne amie, Catherine, puis Tracy. Catherine Turgis est très connue aussi dans le milieu de la longue randonnée parce qu'elle vient de terminer, de franchir une randonnée de 4240 km sur la Pacific Crest Trail.
Oui.
Puis Catherine, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux aussi, puis... C'est une très belle rencontre. C'est devenu une très bonne amie. Puis j'ai fait tellement de belles rencontres avec ce projet-là qui était... Je suis même pas parti, puis j'ai déjà plein d'amis que je me suis fait grâce à ce projet-là.
De vrais amis.
Ah, des vrais amis, oui. Même en fin de semaine, il y a quelqu'un qui me suivait sur ma page Facebook.
Ah oui.
Je l'ai engagé pour m'aider parce qu'il y a tellement de documents à remplir, des lettres à écrire.
Oui, oui.
Comme je disais, elle a tout traduit ma page en anglais. Donc, elle vient de Québec, puis elle vient passer 3 jours chez nous en fin de semaine, puis on ne se connaît même pas, puis c'est comme si on se connaissait depuis toujours.
Donc pendant votre trajet, vous gardez des liens là, avec la page Facebook, d'autres communications.
Oui.
Alors, les auditrices, auditeurs qui veulent communiquer avec vous, c'est par une page Facebook, c'est
oui,
ça?
Oui, la page Facebook, Instagram, puis j'ai la page Ko-fi aussi, qui est une page de socio-financement. Et on peut, c'est de cette page-là que je vais mettre toutes les vidéos, surtout. Donc, pour l'achat d'un café.
Au Café du coin, au Team du coin.
Le Café du coin, oui. Les gens vont pouvoir suivre l'aventure. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, Yann, j'aimerais tellement ça être dans tes bottines. » Mais il y a des gens aussi qui aiment plus voir un peu en superficie qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr que mon voyage a un côté spirituel très prononcé. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui s'intéresse à ce volet-là, mais c'est le volet que je veux mettre plus en place. Donc, ceux que ça leur intéresse, puis qui veulent améliorer leur vie, je vais mettre l'information plus sur une page qui sera un peu plus privée sur Ko-fi, ko-fi.com, une rando avec Yannick. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, je vais partager des vidéos. C'est déjà la première vidéo que je vais mettre. Ça va être le lever du soleil.
Le premier jour.
À Terre-Neuve, premier jour, en espérant que le soleil se pointe le bout du nez, parce que je vais être à Cap Spears. Puis à Cap Spears, c'est le lieu le plus à l'est du Canada, puis c'est là que commence le sentier transcanadien.
Et on veut voir des icebergs.
Oui, aussi. Mais c'est un peu plus au nord.
Plus au nord, oui. Alors, on est bien préparé physiquement, mentalement, on est bien organisé, l'équipement, l'alimentation, l'hébergement et tout. Alors, en route, vous avez aussi du soutien. D'abord, le soutien financier, si j'ai bien compris. Vous allez continuer à travailler un peu pour ramasser des sous et subvenir aux besoins au jour le jour. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement ou de soutien de ce côté-là?
J'ai travaillé très fort les 2 dernières années pour mettre de l'argent de côté.
Oui.
Évidemment, ça, j'avais pas le choix. J'ai ma conjointe qui va m'aider aussi pour faire quelques paiements comme les taxes, vider notre puisard, les frais reliés à ça. Donc, tu sais, c'est tout des petits frais, tu sais, au jour le jour. Hein, puis j'ai une entreprise qui a un commanditaire silencieux que je remercie énormément, qui vont me fournir un cellulaire le temps de mon voyage. Donc, avec 30 gigs de données, donc je vais pouvoir partager un petit peu plus parce que là, mon forfait téléphone est seulement 4 gigs. Et 4 gigs est vite passé de la vie de tous les jours. On met 2-3 photos et c'est vite atteint la capacité maximale de nos données de téléphone. Là. Mais oui, c'est une belle générosité de leur part. Et il y a aussi, comme je le disais tantôt, Ko-fi que les gens peuvent donner des sous. Et sans être de l'aide directe, l'aspect financier qui va coûter le plus cher, c'est la nourriture.
Mm-hmm, oui.
Et étant donné que des gens, surtout dans le Québec, vont m'héberger et m'offrir à manger, là, je vais sauver énormément de coûts. Puis ça va me donner un grand coup de main parce que je vais manger autre chose que des nouilles ramen.
Jour après jour.
Jour après jour, oui.
Excellent. Bah, écoutez, Yannick, on prend une dernière pause et on parle du retour. Parce que on l'a mentionné souvent au sujet de Compostelle, c'est le retour qui est parfois aussi difficile, sinon plus difficile au niveau de l'adaptation. Alors, on revient tout de suite.
Ça va être très intéressant.
Nous sommes de retour avec Yannick Proulx qui part bientôt pour son périple sur le sentier transcanadien. Juste avant la pause, Yannick, on en parlait, le retour. Comment vous prévoyez le retour, anticipez le retour? Parce que après 2-3 mois sur une route, sur un chemin, on est transformé, imaginons 2 ans. Comment vous voyez le retour, la transformation?
Je pars 5-6 jours et je reviens transformé. Anne, ma conjointe, elle a un peu de la misère à me gérer pendant mes retours parce que je veux pas dire que je deviens un légume, mais je suis comme paralysé.
Oui.
C'est à revenir comme à la réalité parce que on n'a plus le même contexte, on n'a plus la même approche avec la vie de tous les jours, puis de vivre dans le bois, puis de vivre à la maison. Nos routines sont complètement différentes. Mm-hmm. On pourrait juste parler de la toilette.
Par exemple, se laver, oui,
aller à la toilette.
Tout à fait, oui.
On le prend pour acquis, mais dans le bois, on va dans le bois. On utilise les lacs, on utilise les rivières, on utilise l'eau qui est là, on y fait attention à l'eau, on essaie de ne pas la polluer, mais il y en a, ils vont arriver à la maison, OK, on a de l'eau pour se brosser les dents, coule l'eau à flot, puis tu brosses les dents, on referme le robinet après, ou la toilette, flush, je tire la chasse d'eau
à pour volonté.
Mettre un papier dans la toilette, mais c'est des habitudes qu'on a dans notre vie, puis qu'on ne se rend pas compte à quel le point que c'est facile de se débrouiller avec ce qu'on a, puis qu'on se retrouve dans le bois. Mais là, c'est une autre technique, là. C'est d'autres choses. C'est de faire un trou dans terre pour tout enterrer, puis faire ses besoins, puis la gestion des papiers, la gestion de nos déchets. Tu sais, on a un déchet, on jette ça dans la poubelle. Après ça, on met ça, puis il y a un camion qui va passer, qui va ramasser. Mais là, c'est donc... Les habitudes de vie en forêt puis les habitudes de vie à la maison, c'est totalement différent. Puis je peux raconter une anecdote que j'aime beaucoup. Quand je suis revenu lors d'une de mes randonnées, on a eu un problème. On a une pompe, on reste en campagne. Donc, on a une pompe à eau. Puis la pompe à eau, elle a brisé.
Oui.
Donc, moi, je revenais d'une rando, puis là, on n'avait plus d'eau pour fournir la toilette. Puis là, Anne a dit, mais là, on n'a plus d'eau, faut la réparer. Quand j'étais dans le bois, la pompe à eau, c'était le dernier de mes soucis.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller chercher de l'eau, on va remplir la toilette, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on est bien capable à dédramatiser des choses, puis mieux apprécier qu'est-ce qu'on a après un long voyage. Mais comme Catherine Turgis, je vous parlais tantôt, que j'étais allé voir en conférence, elle est partie marcher sur la Pacific Crest Trail, ça lui a pris 5-6 mois, mais ça prend autant de temps à revenir que de temps qu'on a marché. Donc, si je pars 2 ans, ça risque de quasiment me prendre 2 ans être capable de revenir puis de me réhabituer à me réintégrer dans la société puis dans le rythme de vie qu'on vit présentement. Mais pour ça que je me garde plein de beaux projets que je veux faire par la suite, comme des conférences, un livre. Tu sais, j'étais pas très bon à l'école, donc je me suis mis le défi d'écrire un livre, tu sais, parce qu'une de mes enseignantes m'avait déjà dit « Tu pourras jamais écrire de livre, t'es pas assez bon. »
Mais là, vous serez inspiré quand même.
Je vais être inspiré, puis avec tous les outils de correction, aujourd'hui, je vais être capable de pouvoir relever ce défi-là.
Avant de vous laisser partir, parlez-nous de cette dame dans Charlevoix, vous avez mentionné tout à l'heure, confiance à la vie.
Ah oui, Carole qu'elle s'appelle. Donc Carole, je l'ai rencontrée après, c'était le 4 octobre, le lendemain des élections.
Ah oui?
Oui. Mm-hmm. Puis, j'allais moyennement bien cette journée-là. Puis, j'étais fatigué. Puis, j'ai croisé Carole, était sur son terrain. Je suis allé lui demander de l'eau. Puis, on a commencé à discuter. Puis Carole, c'est une chrétienne. Mm-hmm. Donc, on s'est mis à parler de la spiritualité, puis on a vraiment bien échangé. C'était à l'heure du dîner, donc je me suis installé. Je lui ai demandé si je pouvais m'installer sur son terrain pour manger.
Oui.
On a parlé environ 3 heures de temps.
Ah, formidable.
Puis elle m'a dit un beau message. Puis elle m'a dit, tu sais, être capable, ben, me demander premièrement si j'étais croyant, puis que pourquoi que j'apportais tout... que j'allais traîner tout ce gros sac à dos-là. Elle a dit, fais confiance à la vie, fais confiance aux gens, tu sais, les gens vont t'aider. Puis nous, là, un peu l'idée de demander aux gens de m'accueillir chez eux. Puis elle me dit, pour être capable d'atteindre Dieu, le chemin est très large. Mais pour l'atteindre, le chemin est très étroit. Et ça, j'ai changé Dieu pour mon objectif. Mon objectif, puis c'est la même chose qu'on dit, objectif Dieu... Le concept revient au même, mais on a un effet d'entonnoir. Dieu est au bout, mon objectif est au bout, mais on a tellement de défis alentour, d'obstacles, les gens qui peuvent nous décourager, qu'on parlait tantôt des finances, on a plein de moments qu'on peut être découragé, la météo, il pleut, il fait trop chaud, les insectes, les animaux sauvages.
Faire confiance à la vie.
Faire confiance à la vie. Mais de tous ces obstacles-là, il faut être capable de se faufiler pour être capable d'atteindre son objectif. Puis d'être capable d'atteindre Dieu au bout de la ligne. Mais j'ai tellement aimé ces paroles-là que cette journée-là, j'ai été capable de marcher 50 kilomètres en ayant été arrêté pendant 3 heures en échangeant avec elle. Puis quand je suis arrivé à ma destination, que j'ai installé ma tente, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais installé ma tente à côté d'une affiche « Interdit de camper ». Je me suis installé.
Très belle façon.
C'était un de mes plus beaux voyages en Charlevoix. C'était gratifiant puis très enrichissant des rencontres que j'ai faites.
Très belle façon de terminer l'émission. Une belle pensée, faire confiance à la vie. Et nous vous souhaitons, Yannick, bonne route, bon succès et peut-être à très bientôt.
Mais j'espère bien. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Vous pouvez aussi y laisser suggestions et commentaires à propos de cette émission. Merci beaucoup évidemment à notre invité Yannick Proulx. Merci également à notre maître de la régie, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée d'Ella Maillard, qui a longuement fréquenté les sommets. Tout de même et avant le reste, le meilleur moyen de se débarrasser d'un désir obsédant, c'est de le réaliser. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!